Salut, c'est Valence. Vous écoutez shot.ca.
Salut, c'est les Apatrides Anonymes. Bon, non, pour vrai, c'est les Apatrides Anonymes sur choc.ca, émission du jeudi 29 juillet 2021, de retour dans notre case horaire habituelle à 18h30, après un congé. Donc, ça fait 4 semaines qu'on vous a parlé, l'actualité déborde de partout, on ne sait plus quoi faire avec, donc on va essayer de vous en relancer un petit peu. Les Apatrides, ben, c'est votre rendez-vous bimensuel sur les questions migratoires et sécuritaires, principalement, ici comme ailleurs. On est avec vous pour la prochaine 1h10, 1h20. Donc, on verra si on est discipliné ou non. Simon, qui est au micro à l'animation, en compagnie de Marie-Ève. Salut, Marie-Ève. Qui va nous parler de Afghanistan, Libye, Europe de l'Est.
Oui, c'est ça.
Salut, Marie-Ève. Et de Mathieu, qui nous parle enjeux d'immigration et enjeux autochtones.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en forme.
Oh oui.
Cool. Aussi, ben, au programme de l'émission, un agenda culturel et militant. Plein de petites brèves internationales parsemées à droite et à gauche, ici et là. De la bonne musique, évidemment. Mathieu, on va dédicacer l'émission. Je te laisse la parole.
Oui, on va dédier l'émission de ce soir à Carmelo Monge, qui est un militant pour la cause migratoire, les personnes migrantes, qui est arrivé à Montréal en 2008, qui est impliqué surtout avec Mexicains Unis pour la régularisation, Solidarité sans frontières, le CTI, Radio Centre-Ville, etc. Et il est décédé il y a quelques jours, malheureusement, à l'âge de 50 ans, de façon un peu mystérieuse. Donc, ça a fait un choc dans la communauté militante pour les droits des migrants à Montréal. Donc, Carmelo Monge, on le salue. Hasta siempre.
Parfait. Ben, donc, la prochaine heure est 10 et 20. Lui est consacré à sa mémoire. Mathieu, toi, on va te retrouver dans quelques minutes pour des enjeux autochtones. Donc, on lance l'émission. C'est les Apatrides Anonymes sur choc.ca. Je vole un peu de ton temps, comme on fait d'habitude, pour quelques nouvelles sur un des grands oppresseurs d'origine, donc l'Angleterre, par rapport aux enjeux autochtones.
L'Empire britannique.
Oui, je sais pas si on peut encore le qualifier d'empire, mais les États-Unis ont pris le relais de cet empire, en tout cas. Donc, on sait depuis le Brexit qui rend l'Angleterre presque complètement libre de faire ce qu'elle veut en termes d'immigration. Ben voilà, le gouvernement britannique est arrivé début juillet avec sa plus grosse réforme du système d'immigration depuis des décennies. Projet de loi qui durcit considérablement et particulièrement les programmes d'asile qui a été présenté par la ministre de l'Intérieur, Priti Patel. Comme mesure annoncée, donc vous allez voir, la liste est impressionnante. Possibilité de suspendre ou de retarder la délivrance de visas aux migrants des pays qui refuseraient de reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière. On va exiger des frais de visa plus importants pour ces mêmes pays là, qui collaborent pas assez selon le gouvernement britannique. On enverrait les demandeurs d'asile, pendant qu'on traite leurs demandes, sur des territoires extérieurs le temps de je sais pas c'est quoi le traitement, ça peut être probablement aussi long qu'ici. Donc on évoquait des îles, des ferries désaffectées et même des plateformes pétrolières. Ça nous rappelle des moyens absurdes envisagés par l'Angleterre pour empêcher les embarcations de traverser la Manche. Où Mathieu, je me rappelle, évoquait avec humour de suspendre des photos géantes de Margaret Thatcher sur les falaises de Douvres. dans les autres mesures qui sont bien vraies, celle-là, c'est rendre automatiquement inadmissible toute personne qui arrive de manière irrégulière ou toute personne qui arrive au Royaume-Uni après être passée par des pays jugés sûrs. Ça exclut automatiquement tout le monde qui est passé par la France et on n'a pas bien le choix de passer par la France pour se rendre au Royaume-Uni. Donc, on peut présumer que ça va exclure à peu près 100% des gens. On va durcir les conditions d'obtention d'une protection pour les mineurs et durcir les peines pour les passeurs et, grande nouveauté aussi, imposer des peines aux personnes migrantes qui utilisent leurs services, les services des passeurs. Disposition qui a toutefois été cassée tout récemment par le parquet britannique, ce qui veut dire que finalement, ce ne sera pas possible de poursuivre ou de criminaliser une personne migrante qui est arrivée de manière irrégulière, ce que le parquet, dans sa décision, jugeait cruel. D'ailleurs, cette année, si la tendance se maintient, on devrait battre tous les records avec 10 000 à 12 000 passages dans des embarcations de fortune sur la Manche, contrairement à 8 000 en 2020. Donc, Mathieu, je te...
Ça va très bien. Hein?
Ça va très bien. On revient ici pour des enjeux plutôt autochtones.
Oui, on change quand même de sujet et de lieu, mais quand même, ma première nouvelle, qui est une bonne nouvelle, qui date du 2 juillet, donc le lendemain de la non-fête du Cacanada cette année.
Voyons, Mathieu, là.
Pardon, j'avais un chat dans la gorge. Donc, ben, bonne nouvelle, c'est-à-dire que les défenseurs du territoire des Six Nations de la rivière Grant ont gagné leur point à Calédonia. J'en ai parlé à deux reprises dans la dernière année. Donc, leur occupation qui a duré plus qu'un an d'un terrain immobilier privé pour faire du développement sur leur terre non cédée de la nation là, Haudenosaunee. Donc, ils ont gagné. Le projet a été annulé, finalement, par le promoteur lui-même. Il a envoyé une lettre donc aux gens qui avaient déjà investi de l'argent pour avoir une maison en disant qu'elle allait être remboursée et que malheureusement les injonctions de la cour n'ont pas été appliquées par la police et le gouvernement de l'Ontario, donc il était bien triste d'annuler le projet. J'imagine que son projet avait perdu un petit peu de valeur aussi avec le temps.
C'est quand même étrange que ce soit le promoteur et non le gouvernement qui a fait casser le projet là,
ben il s'est cancellé là, c'est ça exactement, c'était pas au gouvernement le gouvernement aurait pu oui au niveau territorial, mais au niveau du projet c'est lui-même. Donc, le projet qui avait été renommé 1492 Landback Lane, son porte-parole, Skyler Williams, était tout content de cette décision-là. Évidemment, pour lui, c'est une grosse victoire pour les communautés autochtones en Ontario, au Canada. Et ça montre que des gains sont possibles quand on lutte pour...
Il faut être persévérant.
Oui. C'est plus qu'un an. Puis il y a eu des arrestations, de la violence policière et tout, des injonctions. Donc, oui. Ouais.
Mais je me posais la question parce que c'est pas ce projet-là, que c'est la deuxième fois, tu sais, justement, que le projet avait été annulé. Puis que là, le promoteur était revenu à la charge. Donc, est-ce que ce n'est que partie remise ou...
La dernière fois, c'était en 2006, si je ne me trompe pas, ça faisait longtemps. Je ne suis pas sûr que c'était les mêmes promoteurs, par exemple. C'était le même terrain, mais c'est sûr que, comme tu dis, Simon, le problème de fond, c'est qu'il faut régler la question territoriale avec les gouvernements de l'Ontario et d'Ottawa, là, c'est sûr. Là.
Les injonctions, c'est jamais éternel non plus. Là. Il y a une date de péremption là-dessus, normalement.
Oui, mais là, le projet immobilier en tant que tel n'aura pas lieu. Donc, c'est quand même... Mais le territoire est toujours dans une espèce d'entre-deux. Bon, bonne nouvelle là-dessus. Moins bonne nouvelle, ben, la crise au Manitoba au niveau du gouvernement conservateur avec les Autochtones. Vous avez peut-être vu ça passer. Des Premières Nations dénoncent la propagande politique raciste de la province. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour ceux et celles qui ne l'ont pas suivi. Donc, des représentants des Premières Nations dénoncent les commentaires récents du premier ministre Brian Pallister et de son ministre Alun Lajimodière, dont il réclame la démission. Les chefs du Sommet des Nations souveraines du traité numéro 5, qui est une grande partie du Manitoba, ont annoncé un plan d'action visant à combattre le gouvernement progressiste conservateur et sa tentative délibérée de déformer l'histoire des peuples autochtones en ce qui concerne la politique de génocide au pensionnat. Rappel des faits, lors de la manif du 1er juillet à Winnipeg, il y a eu deux statues renversées, celle de la reine Victoria et de la reine Élisabeth II, devant le palais législatif.
On trouvait ça triste.
Oui, c'était vraiment scandaleux. Et Brian Pallister a dénoncé le déboulonnage des statues et a avancé que la colonisation au Canada était bien intentionnée. Je le cite, « Les gens qui sont venus dans ce pays avant qu'il ne soit un pays et depuis ne sont pas venus ici pour détruire, ils sont venus ici pour construire des choses. » Donc, deux jours plus tard,
excuse-moi, mais ça me rappelle un certain Castex, peut-être, en France. Je ne suis pas sûr si c'est...
sur la colonie. Ouais,
qui dit que c'est un partage de bonnes pratiques.
C'est de l'apprentissage, oui.
De culture, voilà.
C'est le principe de la terra nullius, tu sais, à la base là, de la colonisation. C'est-à-dire que, ben, comme il n'y avait rien ici, on est allé...
C'était des bons migrants à l'époque qui voulaient reconstruire un pays.
Apporter le progrès technologique et technique et blablabla.
Mais là, c'est pas fini. Pallister a dit ça, donc le premier ministre. Ensuite, bon, sa ministre responsable des affaires autochtones a démissionné. Et celui qui l'a remplacé, Alun Lajimodière, a provoqué un tollé dans les 10 premières minutes de son assermentation le 15 juillet. en déclarant que ceux qui géraient les pensionnats autochtones pensaient qu'ils faisaient une chose juste. Je le cite, « Selon mes connaissances, le système des pensionnats était conçu pour prendre des enfants autochtones et leur donner les talents et les habiletés dont ils auraient besoin pour avoir une place dans la société alors qu'elle évoluait. »
Bien sûr.
Et lui, c'est un descendant d'un des premiers francophones métis. Il est métis en plus. Il s'appelle Lajimodière. C'est un des premiers métis au Manitoba. Donc, c'est merveilleux.
Je sais pas où est-ce qu'il est allé prendre ses connaissances, mais...
il enseignait peut-être dans un pensionnat.
Auprès de McDonald's, peut-être. Donc, c'est excusé le lendemain, mais ça a continué à avoir des retombées. Il y a deux représentants autochtones, Jimmy Wilson et Darrell Brown, qui ont démissionné de postes qui occupaient dans des conseils de développement en association avec le gouvernement suite aux commentaires du premier ministre défense et du ministre. Donc, le plan d'action du Sommet des Nations souveraines du traité numéro 5 propose la collaboration des Premières Nations et d'organismes pour lutter contre les crimes haineux et le racisme. Et je finis là-dessus. J'ai oublié de vous dire une chose importante. Que lorsqu'il y a eu les propos de la Gimaudière quand il a été assermenté, à la conférence de presse, il y avait le nouveau chef du Parti démocratique du Manitoba qui s'appelle Wab Kinney, qui est un autochtone, comme par hasard, et qui l'a interrompu devant les médias, qui a fait la leçon. C'était vraiment beau à voir. C'est voir la vidéo, là. C'est en disant que c'était inacceptable ce qu'il disait sur les pensionnats autochtones, évidemment.
La Gimaudière, question de trouver la vidéo, là.
La Gimaudière, Alun La Gimaudière, donc, mais Manitoba, raciste, vous allez trouver ça assez facilement. et je cite à la fin, donc, un chef, un des chefs du traité numéro 5, la Première Nation de Black River, Sheldon Ken, qui dit « La Gimaudière a prouvé qu'il est une honte pour la réconciliation et les relations avec les Autochtones. » Donc, c'est à peu près ça la situation actuellement au Manitoba. Je vous ai résumé ça, là, mais c'est quand même spécial. Dernier sujet.
Oui, vas-y.
Dans un jugement récent, la Cour suprême a affirmé que la somme de 30 millions de dollars accordée par la Cour fédérale à la Première Nation de Lac Seul est insuffisante pour compenser les effets d'une inondation majeure causée par un projet hydroélectrique. Donc, les juges se rangent derrière les arguments de la Première Nation qui contestait le montant qui devait leur être versé par le gouvernement fédéral. C'est une Première Nation du nord-ouest de l'Ontario qui affirmait que ce montant ne prenait pas en compte la valeur des terres qui ont été inondées par le fédéral en 1936. Des cultures de riz sauvage, des sépultures et des terres cultivables avaient alors été perdues sous les eaux. Quelques extraits du jugement. Le Canada a manqué à son obligation de préserver et de protéger l'intérêt de la Première Nation, qui comprenait l'obligation de négocier l'indemnité au nom de celle-ci en fonction de la valeur des terres et aussi des dommages pour le projet hydroélectrique. Donc, le jugement se base notamment sur l'obligation de fiducie qu'a le gouvernement envers la Première Nation. Et l'obligation de fiducie de la Couronne repose sur l'obligation de se conduire honorablement et sur l'objectif global de réconciliation entre la Couronne et les premiers habitants du Canada. Une obligation de fiduciaire rigoureuse prend naissance lorsque la Couronne exerce un contrôle sur la terre d'une Première Nation. Donc, c'est la Première Nation de Lac Seul, c'est ça le nom en Ontario, a affirmé célébrer une victoire longuement attendue aujourd'hui.
Hein, oui, on parle
des années 30. Des années 30, 1936, oui. Le barrage qui avait inondé leur territoire. Donc, le chef, Clifford Bull, a affirmé que sa nation va obtenir justice pour l'inondation illégale qui a causé tant de dévastation. Il indique par contre que de mener des procédures de 35 ans pour obtenir justice d'une offense qui s'est produite il y a 85 ans, ça montre qu'il y a un problème dans le système de justice et aussi dans le traitement des revendications des Premières Nations.
Au moins, il n'y avait pas des lettres de prescription.
Hein? Non. Mais quand même, les procédures
d'état il y a 30 ans. OK, hein, sans rire même.
Oui, tout à fait.
La couronne, des fois. Là, bon.
Et selon un avocat près de la cause, on note que la Cour suprême a grandement renforcé le sens du devoir fiduciaire du gouvernement envers les peuples autochtones avec ce jugement et que le gouvernement ne peut pas profiter de sa relation privilégiée avec les Premières Nations pour en tirer des avantages à raison de ses pouvoirs discrétionnaires. La Cour a vraiment montré le mauvais comportement qu'a eu le gouvernement en ne faisant pas d'efforts pour exproprier convenablement le territoire. Ça, c'est drôle comme phrase, quand même.
Une façon de dire les choses.
Exactement. Et ce jugement du tribunal pourrait changer la donne, notamment si d'autres Premières Nations réclamaient des compensations du gouvernement fédéral. Ben c'est sûr que c'est comme un précédent, donc d'autres Premières Nations qui risquent de s'en servir. C'est-à-dire vraiment la nuance, c'est que non seulement les compensations étaient pas assez, souvent c'est des montants un peu dérisoires, mais que la valeur du territoire aussi n'est pas prise en compte et que le fédéral, vu qu'il négocie au nom des Premières Nations, qui n'ont pas le droit souvent de faire des procédures en cours, en tout cas à l'époque, il n'avait pas le droit. Donc, son devoir doit être renforcé. Donc, il doit revoir sa façon de faire. Donc, c'est un jugement un peu technique que je vous l'accorde.
C'est un peu complexe.
C'est un peu complexe.
Si on prend en compte l'inflation, le changement de valeur des territoires, enfin, c'est sûr que c'est pas évident.
Mais ça pour dire que cette cause-là, comme d'autres, va forcer des négociations et donc souvent va éviter les tribunaux. Il y aura des négociations entre les Premières Nations et le fédéral pour régler un paquet de vieux litiges qui existent comme celui-là.
Ouais, c'est tantôt on parlait de persévérance pour Calédonia, mais là, dans ce cas-là, c'est 85 ans à peu près. Tu disais, c'est une question de génération.
Oui, tout à fait. De plusieurs générations, oui.
Merci beaucoup, Mathieu.
Ben voilà.
Écoutez, avant de passer à la musique, Bolsonaro, j'avais envie de vous parler de lui, qui est un autre oppresseur des Premières Nations. Donc, le pauvre président du Brésil a dû se faire hospitaliser, même devoir subir une chirurgie, sûrement dans la région de la gorge. Pourquoi? La question est ouverte.
Déjà, donc? Ah oui, parce qu'il y avait le hockey.
Il y avait un hockey depuis 10 jours. Donc, un petit peu précieux, notre Bolsonaro. Le record Guinness, je suis allé vérifier du plus long hockey, c'est 68 ans. Mm-hmm. Fait que son petit hockey de 10 jours, en tout cas, bref, il s'en est malheureusement sorti. On s'en va en musique avec Zoufris Maracas. La pièce s'appelle Sa Majesté la Mère. C'est sur l'album Bleu de Lune qui est sorti en 2020. Zoufris Maracas, c'est un groupe qui vient de Sète, ville portuaire de la Méditerranée dans le sud de la France. Un groupe assez militant, assez actif sur la question, entre autres, des ZAD, les zones à défendre. Il y en a, je sais qu'il y en a à Nantes, il y en a à Calais, je crois, entre autres, il y en a, qu'il y en a à plusieurs endroits. La pièce qu'on va écouter, par contre, on parle de guerre, de misère, de migration en mer, de rapport nord-sud. Donc, voilà, c'est Sa Majesté la Mère de Zoufris Maracas sur choc.ca aux apatrides anonymes.
Que j'ai joué à vous, Sa Majesté la Mer, vos vagues venues se briser depuis l'autre bout de la terre. J'aurais mille questions à poser, vous qui avez croisé les hivers qui ne sont pas encore arrivés du côté de mon hémisphère. Du côté de mon hémisphère. Prochaine note que je jouerai à vous, Sa Majesté la Mer, au vague qui vient m'enlever le dernier petit goût amer que j'aurai au fond du gosier. Quand j'irai adieu à ma mère, j'aurai mille questions à poser, vous qui avez parlé aux rivières, qui avez roulé tant de rochers et écumé tant de misère. Tant de noyés, des enfants qui fuyaient la guerre, que des salauds avaient armé pour faire fleurir leurs petites affaires. J'aurais mille questions à poser à vous, Sa Majesté la Mère, devant autant d'absurdité et au nom du grand univers. Ne pourriez-vous pas pour une fois couler ces yachts de milliardaires plutôt que ces petits radeaux en bois? Où entassent ses rêves, mes frères, plutôt que ces petits radeaux en bois. Où entassent ses rêves, mes frères. Dernière note que je jouerai à vous, Sa Majesté la Mer, à ma dernière tasse d'eau salée, à ma dernière bouffée d'air, à la vague qui aura raison de mon envie de résister, et au nom du grand univers, dans tant d'absurdité, je voudrais retrouver la paix, et pour finir me laisser faire, je voudrais retrouver la paix. Pour finir, vous laisser faire et enfin me laisser aller à vos bras, Majesté la Mer, et enfin me laisser couler sans papier, Majesté la Mer.
Au aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. On écoutait Zoufris Maracas, Sa Majesté la Mère, qui est sur une compilation SOS Méditerranée. Donc, si vous voulez acheter le fichier, ça va contribuer à financer des organismes qui viennent en onde en aide aux personnes migrantes dans la région de la Méditerranée. C'est les Olympiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une équipe de réfugiés cette année à Tokyo. Délégation de 29 athlètes, des femmes, des hommes de toutes origines qui ont sans doute ont pas dû avoir le parcours de rêve avec les super centres d'entraînement à la fine pointe de la technologie pour se rendre jusque-là. C'est la deuxième fois que ça arrive. Il y avait eu une équipe de réfugiés aussi à Rio en 2016. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Je trouve ça cool pour ces 29 athlètes-là, mais je me demande si c'est pas une sorte de greenwashing de la part du Comité international olympique qui se gargarisait de sa bienfaisance pendant la cérémonie d'ouverture. Donc, à méditer. J'accueille Marie-Ève en studio. Tu nous amènes en Libye et en Afghanistan principalement, justement, deux des trois pays du monde avec le Venezuela où il y a le plus d'où origine le plus de réfugiés.
Est-ce que ceux
dans l'équipe de
réfugiés, ouais, est-ce qu'il y en a qui viennent de l'Afghanistan et de la Libye?
Oui, il me semble que oui, mais qui sont localisés dans d'autres pays maintenant et en attente de statut.
Bon.
En fait, c'est pour ça qu'il y a une équipe de réfugiés, c'est parce qu'ils sont pas nécessairement citoyens d'un pays qui a une équipe olympique.
Oui, c'est ça. Bref, ben comme tu l'as dit toi-même, donc avec les Olympiques et la psychose du variant Delta, les grands médias ont justement pas tellement tant que ça parlé de la situation qui prévaut actuellement en Afghanistan, qui s'est beaucoup dégradée depuis quelques semaines, alors que l'armée américaine et les forces de l'OTAN là achèvent le retrait de leurs troupes tranquillement, pas vite, mais sûrement. Ces deux derniers mois, les talibans ont conquis de grandes portions du territoire. Ils sont très présents autour des villes de Kunduz et de Mazar-e-Sharif et aussi dans la province du Badakhshan. Ils contrôleraient, selon les talibans eux-mêmes, 85% du territoire, ce qui laisse, dans le fond, aux forces afghanes les grands axes là, les capitales provinciales, dont certaines sont encerclées. Et la semaine dernière, pour fuir justement l'avancée des talibans, il y a 1 000 000 d'Afghans, dont même des militaires, qui ont franchi la frontière avec le Tadjikistan et se sont engagés sur une des routes migratoires principales vers l'Europe, qui conduit donc les migrants et les migrantes des républiques d'Asie centrale à la Russie, puis à la Biélorussie. En plus, selon le représentant spécial adjoint des Nations Unies en Afghanistan, au moins la moitié des quelques 39 millions d'Afghans ont actuellement besoin d'assistance urgente. Donc,
tu parles de ceux qui sont restés sur le territoire?
Ouais,
parce que ceux qui quittent, c'est des routes montagneuses.
Non, non, je parle de ceux qui sont sur le territoire.
Parfait.
Donc, tout ce contexte-là a amené le gouvernement afghan à appeler l'Europe à ne plus renvoyer dans le pays ses ressortissants durant les 3 prochains mois. Le gouvernement afghan a aussi décidé de ne plus accepter les retours forcés de migrants de tous les pays avec lesquels Kaboul a conclu des accords de coopération en matière de migration. Pour vous donner une idée, en 2020, les Afghans constituaient 10,6% des demandeurs d'asile de l'Union européenne, avec un peu plus de 44 000 demandes sur 417 000 environ au total.
Okay.
Soit, ça en fait en fait le deuxième contingent derrière les Syriens, qui eux représentent 15,2% selon l'agence statistique de l'Union européenne Eurostat.
Mm-hmm.
En France, les migrants afghans sont les premiers demandeurs d'asile avec 10 365 demandes déposées en 2020. Ça, ce sont les chiffres de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA. Retenez cet acronyme parce que je vais le rementionner.
L'OFPRA.
OFPRA, oui. Non, pas... J'allais faire un... OK, on va rester dans le sujet. Un tiers de ces demandes sont présentées après un premier refus dans d'autres États de l'UE. Donc, on parle de Dublinais. Mais depuis quelques années, l'OFPRA a réduit le taux de protection accordé aux Afghans. Il est passé de plus que de 80 % en 2015 à moins de 60 % en 2019. Et autre crainte, c'est une récente décision du Conseil d'État français qui a confirmé une décision de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui avait rejeté en novembre 2020 la demande de protection d'un Afghan. Bon, il s'agit avant tout d'une décision technique, un peu comme toi, Mathieu, sur la décision sur la communauté du Lac-Seul, mais je rentrerai pas dans les détails parce que c'est trop technique, mais la CIMAD s'inquiète de ce que ce jugement-là lance un mauvais signal, c'est-à-dire un rejet massif des futures demandes d'asile. J'explique un peu, c'est que jusqu'en novembre 2020, la CNDA appliquait ce qu'on appelle la jurisprudence Kaboul. C'est-à-dire qu'elle accordait quasi systématiquement une protection aux Afghans. La Cour considérait en effet qu'un Afghan qui était débouté de sa demande d'asile et à qui la France demandait de partir devait nécessairement s'arrêter à Kaboul, tu sais, passer par là avant de rejoindre, disons, sa province d'origine. Donc, il se retrouvait exposé à une menace de violence massive là, et générale. Et cette jurisprudence-là attribuait ce qu'on pourrait appeler une protection subsidiaire aux Afghans à défaut d'un statut de réfugié qui, lui, est réservé au cas de persécution individuelle. Donc, avec le précédent du Conseil d'État, la CIMAD se demande si les demandeurs d'asile afghans seront dorénavant moins protégés à la fois par l'OFPRA et à la fois par la CNDA.
C'est ça, on veut un peu casser le principe selon lequel un Afghan fuit un environnement dangereux.
C'est ça.
Par défaut. Là,
c'est ça. Donc, mais là, avec la situation actuelle, il y a aussi de nombreux Afghans qui sont réfugiés en France qui, eux, s'inquiètent aussi du sort de leur famille, évidemment, restée au pays. En ce moment, il y a environ 3500 dossiers de réunification familiale qui sont en attente dans les couloirs de l'administration française. C'est quand même beaucoup. Je vous avais aussi parlé qu'en mai dernier, le ministère français des Affaires étrangères avait mis en place un dispositif d'accueil des Afghans qui travaillent pour les institutions françaises et qui souhaitaient quitter le pays. Là, d'après Le Monde, cette procédure-là concernait une centaine de personnes ayant travaillé pour la France, ainsi qu'environ 500 membres de leur famille. Sinon, il y a au moins un pays de l'Union européenne qui a entendu l'appel du gouvernement afghan et c'est la Finlande. Le pays a annoncé à la mi-juillet qu'il suspendait temporairement toutes les expulsions vers l'Afghanistan jusqu'à ce que l'évaluation de la situation sécuritaire soit terminée. C'est un peu vague, c'est pas clair ce que ça veut dire, mais en tout cas, au moins, il y a un moratoire là-dessus. Sauf que, en dépit des risques, les demandeurs d'asile afghans en Finlande verront pas pour autant leur demande automatiquement acceptée. Donc, ils vont juste rester dans les lignes, finalement.
Dans un flou administratif.
Oui, c'est ça. Puis même que le responsable finlandais du service d'immigration a même dit qu'il devrait attendre plus longtemps une décision, étant donné que la situation est instable. Donc, en Finlande, actuellement, il y aurait là, environ 350 demandes d'asile qui concernent des citoyens afghans qui sont actuellement en attente dans ce pays-là. Il y a aucun autre pays de l'Union européenne qui a décidé d'interrompre ses renvois vers l'Afghanistan. L'Allemagne, elle, a déclaré qu'une décision serait prise à la fin du mois de juillet. On est comme pas mal là, puis j'ai rien vu pantoute à ce sujet-là. Puis tous les autres États membres, eux, sont restés muets sur le sujet.
Donc, quand même, je me permets un peu, mais je trouve que c'est toujours un peu bizarre que chaque État décide de tel autre État est dangereux ou non. T'sais. Alors que ça devrait être des institutions internationales qui déterminent la dangerosité de la situation
dans un pays, effectivement.
Comme le Haut Commissariat pour les réfugiés, mettons.
Effectivement. Mais tu sais, quand des pays commencent à retirer leurs propres ressortissants dans des pays occidentaux, j'entends, là, commencent à retirer leurs propres ressortissants, il me semble que ça lance un signal. Là,
ouais. Peut-être ajouter aussi que là, les Américains se retirent officiellement d'Afghanistan au niveau militaire, puis au niveau, entre autres, structurel. Puis c'est sûr que là, les médias n'arrêtent pas de parler depuis deux semaines que les talibans prennent du terrain et tout et tout. Fait que c'est sûr que dans les faits et aussi dans l'image qu'on a de ce pays-là, ça va être un pays qui va être encore dangereux pour plusieurs années. Puis même le Canada a annoncé la semaine passée qu'elle allait rapatrier, qu'elle allait donner statut de réfugié à ses anciens collaborateurs de résidence.
Oui.
Résident permanent,
ouais.
À ses anciens collaborateurs.
Ben, comme la France le fait,
c'est ça. Mais le Canada, finalement, a décidé de le faire la semaine passée, l'a annoncé.
Ouais.
Fait que tout ça fait que moi, j'ai l'impression que les réfugiés afghans vont continuer à fluer, puis ça va être difficile de les refuser, là, c'est clair.
Oui, non, c'est clair, mais ça va probablement juste augmenter, justement, le nombre de personnes qui sont
dans les limbes.
Dans les limbes, là, tu sais.
Peut-être affluer vers la Finlande, mettre un peu de vie là-bas aussi.
Sinon, peut-être je vais aborder un peu la Libye, dont les actions des gardes-côtes en Méditerranée continuent de scandaliser. Vous avez peut-être vu là cette vidéo tournée et diffusée par l'ONG allemande Sea-Watch au début du mois. On y voyait des gardes-côtes libyens tentant d'intercepter et même de percuter un bateau de migrants. Sur la vidéo, on peut clairement voir aussi que les gardes-côtes libyens ont tiré sur l'embarcation. Hein. On voit des impacts de au moins 2 tirs à la surface de l'eau. De 2 à 3 mètres à 2 à 3 mètres de la proue du bateau dans lequel se trouvait une cinquantaine de personnes. Mais bon, faut croire que ces gestes-là scandalisent pas les autorités italiennes puisque 2 semaines plus tard, le Parlement italien a renouvelé son soutien financier et matériel aux gardes-côtes libyens, qui a pour but évidemment de stopper les embarcations de migrants en mer Méditerranée. La résolution a été adoptée par, tenez-vous bien, une écrasante majorité de 428 voix contre 2 abstentions et 2 voix contre. Il y avait 30 députés de gauche, de centre-gauche et d'extrême-gauche qui ont présenté une résolution appelant à la suspension immédiate du soutien aux autorités libyennes, mais la majorité des élus l'ont rejeté. Non, c'est vraiment décourageant. Je précise, mais non, je vais en rajouter tant qu'à faire. J'ajoute d'ailleurs que le vote au Parlement italien est intervenu le jour même de la parution d'un autre rapport, celui de Amnesty International, dans lequel Amnesty dénonce notamment la complicité, et c'est les termes qu'ils utilisent, de l'Union européenne dans les atrocités subies par les migrants interceptés en mer et renvoyés en Libye. D'après Oxfam, les financements de la Libye ont augmenté d'1 demi-million d'euros cette année. Le montant de l'aide financière italienne est passé de 10 millions d'euros en 2020 à 10,5 en 2021. Et depuis 2017, l'aide italienne allouée, c'est-à-dire depuis l'accord qu'il y a entre l'Italie et la Libye, donc les sommes allouées aux autorités libyennes s'élèveraient à 32,6 millions d'euros. Quelques chiffres en terminant.
Tu veux vraiment nous décourager complètement?
Hein? Oui, exactement.
Nous réveiller, Simon.
Oui, excusez-moi.
J'en appelle à votre conscience. Près de 21 000 personnes sont arrivées sur les côtes italiennes depuis janvier. C'est 3 fois plus qu'à la même époque en 2020. Parmi elles, 17 % étaient des mineurs non accompagnés, ce qui est beaucoup. Selon Amnesty International, depuis le début de l'année, plus de 15 000 personnes ont été interceptées en mer, dont 12 000 pour l'ensemble de l'année 2020. Et selon un nouveau rapport de l'Organisation internationale des migrations, 1146 personnes sont mortes en mer entre le mois de janvier et le mois de juin 2021. En Méditerranée principalement, mais aussi en Atlantique, ce chiffre-là, c'est plus du double par rapport à la même période de l'année dernière. Côté Méditerranée, l'OIM comptabilise plus de 890 décès, pardon, et côté Atlantique, on parle d'au moins 250, ce qui est un peu drôle parce que, ben drôle, pas drôle, mais particulier, disons, parce que si on se fie aux chiffres de l'ONG Caminando Fronteras, elle estime que c'est près de 2100 personnes le nombre de morts sur la route de l'Atlantique seulement et non pas 250. Là. Donc,
C'est vraiment pas pareil.
Hein? Non, c'est vraiment pas pareil. Et ces chiffres-là, ben évidemment, prennent pas en compte les embarcations qui ont coulé hors des radars des navires humanitaires, des navires commerciaux, des navires des gardes-côtes, et que personne a pu répertorier. Dans son rapport, l'OIM dénonce aussi le fait que les ONG soient criminalisées. Par exemple, pour le seul mois de juin 2021, la plupart du temps, il y avait un seul bateau humanitaire qui était présent dans la zone de détresse et de sauvetage, quand 9 autres étaient bloqués à quai dans des ports européens.
Ouais, puis la Méditerranée, c'est grand, donc
c'est meurtrier. Ouais.
Les gardes-côtes, que ce soit libyen, italien, turc, ça se peut qu'ils en voient même des fois, mais qu'ils laissent un peu passer aussi, parce que l'histoire de vidéos, comme tu disais, qui résonne des bateaux de passants, on en a vu de turcs dans la mer Égée, entre autres. Là, donc, eh bien voilà, avec les réinvestissements que tu as annoncés, ça risque pas de s'améliorer. Donc on va y aller avec quelques notes de musique. On est toujours aux Apatrides, on vous revient dans un tout petit instant. We'll be right back. Ben merci Marie-Ève pour les actualités Libye, Méditerranée, etc., Afghanistan. On revient chez nous, comme dirait je sais pas qui là. Il y avait
c'est mon franqueur.
Ben oui, ben c'est moi qui est au micro, hein, forcément. Il y avait la marche annuelle de Solidarité sans frontières qui avait lieu le dimanche 18 juillet. Ça partait de Parc Extension. J'y étais pas. Marie-Ève et Mathieu y étaient, donc je me tourne vers mes deux collaborateurs pour avoir vos impressions sur la marche en tant que telle, sur les revendications, la participation que vous m'avez dit que vous l'aviez jugée assez faible.
Oui, peut-être préciser que ça devait être une marche jusqu'à Ottawa cette année, sur 7 jours avec des manifs dans différentes villes au Québec et en Ontario. Et finalement, à cause de la situation actuelle et tout, ils ont décidé de faire une marche à Montréal, dans le centre-ville, et ensuite de faire quelques petites activités, petites manifs à Montréal et faire une dernière manif à Ottawa dimanche dernier, qui était le 25, où là, il y avait plus de 1000 personnes.
Ouais. C'est ça, c'était comme segmenté en différentes parties. Hein.
Oui. Oui, donc c'est ça. Donc et puis c'était pas dans Parquex, par contre à Montréal là, ça partait
au centre-ville.
Du centre-ville, c'est ça.
Ah, ok,
ouais,
pardon.
Oui, c'est ça. C'était vraiment au centre-ville. Oui, Mathieu.
OK. Ben, non, mais ben, ce qu'on voulait dire, c'est que cette manif-là, tu as raison, c'est une manif annuelle, donc ça fait 20 d'années facilement qu'il y en a à chaque été.
Oui.
Toujours la demande d'un statut pour tous et toutes, et d'autres demandes aussi autour.
Puis ça regroupe normalement plein de groupes, plein d'horizons différents aussi. Hein.
Différentes communautés aussi, différentes communautés militantes, communautés migrantes à Montréal ou immigrantes. Puis c'est sûr que ce qu'on a constaté, c'est pas la première fois, c'est qu'il y a pas une augmentation des gens, du nombre de gens qui sont là, une diversité plus grande des gens qui sont là, malgré que les questions de migration, de racisme, de travail essentiel, et etc., de déportation, sont beaucoup dans l'actualité, surtout la dernière année qu'on a vécue avec la pandémie, puis la crise économique et tout ça. Donc, on était surpris quand même, puis pour un événement qui était prévu pour être une semaine d'activité, en plus, lancement à Montréal, on s'attendait à ce qu'il y ait plus de monde et qu'il y a des secteurs de la société qui sont pas là du tout non plus. Donc, ça, c'est toujours surprenant.
Oui, c'est ça. C'est que, tu sais, je comprends que la mobilisation, ce soit plus difficile dans un contexte pandémique, là, souvent, et de distanciation physique et tout. Les gens se voient moins. Donc, ça se fait beaucoup par les réseaux sociaux. Mais quand même, tu sais, comme tu le disais, Mathieu, tu sais, il y a quand même des groupes qui traditionnellement participaient, tu sais, à cette manifestation-là, qui est annuelle, qui est pas mal toujours autour de la même date ou presque. Bon, exceptionnellement, cette année, c'était un peu plus tard, là, parce que souvent, c'était à la fin mai. Mais, tu sais, on la connaît, on l'attend. Et, tu sais, par exemple, tu sais, tous les syndicats étaient à peu près pas là. Les groupes communautaires étaient à peu près pas là. Beaucoup de la communauté, disons, plus militante, radicale, anarchiste, était plus ou moins là non plus. Donc, tu sais, au-delà de certaines, disons, communautés racisées qui étaient plus présentes à certaines années, par exemple, dans les débuts des marches de Solidarité sans frontières, tu sais, il y avait le comité des sans-statuts algériens, il y a eu la communauté congolaise à un certain moment, il y a eu la communauté philippine aussi qui était très, très, très présente, très active. Mais au-delà de ça, ce que je trouve, c'est que alors qu'on parle justement de la nécessité, tu sais, de tisser des liens de solidarité, puis qu'on parle de privilèges blancs et tout, il me semble que ben un des privilèges blancs, c'est d'avoir le luxe de pouvoir être dans la rue sans crainte pour notre statut, tu sais. Donc bref, moi c'est un peu mon two thumbs down aux diverses communautés militantes de Montréal.
Ou milieu associatif, aux mouvements sociaux en général.
C'est ça.
Il y avait peut-être 250 personnes un dimanche à Montréal l'été. Il faisait quand même beau, puis c'était le début d'une semaine d'activité, donc c'est très décevant. Et on a vraiment dit que pendant la pandémie, ça a révélé les inégalités sociales, dont celle-là. Donc oui. J'avoue que c'est difficile à comprendre un peu. Là.
Cela dit, l'ambiance était était très festive, si on veut, mais très, tu sais, l'énergie était très bonne. Et les gens, moi, j'ai vu quand même, tu sais, il y a des gens qui, par exemple, quand on marchait sur Sainte-Catherine, il y a des gens, tu sais, qui étaient sur le trottoir, qui participaient pas nécessairement à la marche et qui se sont joints aussi. J'ai vu, tu sais, j'ai pu être témoin de ça à plusieurs reprises, tu sais, où des gens se sont joints à la manif, on marchait un peu en cours de route avec nous, tu sais. Donc, ça, c'est le fun.
Donc, une manif qui, normalement, moi, j'ai déjà vu qui regroupait des milliers de personnes. Donc, un petit contraste peut-être par rapport à les années plus fastes.
Oui, des milliers, ça a été assez rare, mais disons quelques centaines de plus, c'est déjà arrivé. Fait que, dans le fond, on fait un appel à tout le monde d'être présent les prochaines fois, là, tout simplement. Oui.
Ben, la réflexion est lancée. J'espère que, parce qu'au-delà des explications, c'est difficile quand même de donner des raisons claires.
Non, non, c'est sûr, là. On peut faire.
Fait que, espérons que ce soit mieux l'année prochaine et les autres années.
Mm-hmm.
Mathieu, ça nous mène logiquement vers toi, vers des enjeux justement d'immigration dont beaucoup étaient abordés dans les revendications de la marche, là, justement. Donc,
entre autres, et quand on décortique un peu les différentes nouvelles sur les enjeux d'immigration au Québec-Canada, ça va vraiment pas bien. Vous allez voir, quelques nouvelles. Non, mais vraiment, c'est pas juste qu'il manque de monde des manifs, mais vraiment, il y a des raisons pourquoi on devrait manifester, justement. Par exemple, Radio-Canada a parlé à plusieurs reprises dans les dernières semaines du fait que des résidents temporaires qui ont des permis de travail ou étudiants qui quittent le pays pour aller voir leur famille et veulent revenir avec leurs enfants qui ont amené avec eux, peuvent pas les ramener. Les enfants ont besoin d'une autorisation spéciale, une norme, une consigne que beaucoup de gens connaissaient pas. Et ça a l'air que c'est apparu quelque part dans la dernière année. Donc, les enfants doivent avoir une autorisation pour chaque cas, chaque voyage. Et s'ils l'ont pas, ben, ils restent avec les grands-parents là-bas le temps qu'ils l'aillent. Plus, c'est beaucoup des Français, donc on en parle plus. Même l'ambassade française au Canada a demandé à Ottawa de faire quelque chose.
Oui.
Et Ottawa répond: ben, les mesures restrictives à la frontière sont mises en place pour protéger la sécurité et la santé de tous les Canadiens. Évidemment, des enfants de résidents temporaires sont très dangereux, évidemment.
La pandémie a le dos large, des fois, c'est fou. Là.
Ben, c'est ça. Puis l'autre nouvelle, un peu dans le même sens, c'est qu'en raison des délais de traitement qui s'éternisent pour les candidats à la résidence permanente, des centaines de dollars pour des examens médicaux sont nécessaires pour en refaire un deuxième. Donc, des gens qui attendent depuis 5 ans leur résidence permanente, qui ont fait un examen médical en arrivant, et là, l'examen est bon 3 ans, doivent le refaire, mais c'est au privé, c'est un examen spécial avec toutes sortes de tests.
Des frais.
Ces gens-là n'ont pas accès à l'assurance médicale, l'assurance maladie, des fois. Donc, finalement, c'est sorti ça aussi dans les dernières semaines, et le fédéral a fini par dire qu'il allait dispenser temporairement certains étrangers à faible risque de l'obligation d'un examen médical, mais là, étrangers, c'est des gens qui sont ici depuis 5, 6, 7, 8 ans, souvent, et cette mesure là qui a été annoncé, c'est après que les médias en aient parlé. Donc, c'est vraiment un peu le bordel, là, honnêtement, au ministère de l'Immigration fédérale. On parlera pas celui du Québec, là, mais bon, tu sais, mais... Puis, à travers ça, Simon, on apprend la semaine passée que c'est le Réseau pour les droits des personnes migrantes qui a révélé que les taux de rejet des demandes de résidence permanente au Canada pour des motifs humanitaires avaient doublé depuis 2019.
Ah bon?
Sia Dusan, qui est beaucoup impliquée avec Migrants Rights Network, entre autres, a constaté que 70% des demandes avaient été rejetées de janvier à mars 2021, et tandis que en 2019, ça a été seulement 35% des demandes pour motifs humanitaires. Fait que là, tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce qu'il y a des nouveaux commissaires, des nouvelles directives, des nouveaux critères?
Je cite M. Hussan, il dit, nous ne comprenons pas ce qui se passe, il n'y a eu aucune annonce, aucun changement de politique. Donc,
ça fait que le ministre ne comprend pas.
C'est le militaire. Ça.
Excusez.
Le ministre s'appelle Mendicini. Et même ce ministère d'immigration considère que les demandes pour considération d'ordre humanitaire sont des mesures exceptionnelles. Beaucoup de migrants, ils voient leur seul espoir d'avoir la résidence, on le sait, parce que souvent, c'est rejeté en première instance. Parmi les facteurs de décision, on compte le niveau d'intégration du demandeur, la présence d'enfants et les conséquences possibles en cas de refus. Donc, c'est ça qui est tenu en considération, puis c'est souvent le cas des gens quand ils sont là depuis longtemps. Et même les documents du ministère révèlent aussi qu'en 2021, ce ne sont pas tous les migrants qui ont eu les mêmes chances de devenir résidents permanents pour des raisons humanitaires. Les ressortissants des Philippines et de l'Inde ont été refusés à 83% et ceux des États-Unis à 68%. Quand même... particulier, hein?
Ben oui. On sait qu'aux Philippines, c'est un climat très, très sécuritaire.
Oui, en Inde, ça va très bien aussi. Donc, ben oui. C'est plus que 70% de moyenne. Donc, ça, c'était ma nouvelle particulière. Et parlant de haute bonne nouvelle, Simon, pour les travailleurs essentiels, exceptionnels à cause de la pandémie, là, les travailleurs de la santé, entre autres, ben, il est fermé depuis quelques jours. Il y avait 30 000 places pour l'ensemble du Canada. Donc, après 10 semaines, il y a eu 30 000 applications. Et là, il y a des groupes qui disent que c'est un peu plate parce qu'il y a des gens qui ont été refusés, ben, qui n'ont pas pu déposer parce que ça coûtait de l'argent en frais d'avocat, en frais médicaux, en frais de tests linguistiques. Et selon la province où tu étais, c'était plus compliqué, comme au Québec, entre autres, on le sait, les conditions étaient plus sévères.
C'était ici que c'était le plus compliqué, en fait. Hein?
Exactement, on en a parlé. Donc, ça fait des inégalités. Et là, le programme est fermé. Est-ce que tout le monde va être accepté? Ça va être à suivre, là, mais c'est particulier. particulier. Puis, pendant ce temps-là, notre bon gouvernement fédéral, ne nous inquiétons pas, le Canada est à l'avant-garde progressiste.
Ah.
Ben oui, le ministre Marco Mendicino...
c'est Hussein, son nom.
Oui, ça c'est l'ancien, ça. Annoncé qu'il y aurait une nouvelle voie vers le Canada pour les réfugiés qui craignent d'être persécutés pour avoir défendu les droits de la personne. Vous avez peut-être vu ça passer.
Au Canada?
Oui, au Canada. Le nouveau... Non, mais pas défendu les droits au Canada. Ouais, bonne. Le nouveau volet inclura toute personne subissant de la persécution pour avoir milité en faveur des droits de la personne. Et un accent particulier sera mis sur les journalistes, les femmes et les défenseurs des droits des membres de la communauté LGBTQ et des personnes bispirituelles. Monsieur Mendicino affirme que nous vivons dans un monde où les droits de la personne et de la démocratie sont assiégés.
Bispirituel, c'est un terme qui est normalement exclusif aux communautés autochtones, mais...
Il y en a dans d'autres pays, oui.
Ah, c'est bien.
Oui.
Mais ce qu'on ne prend pas, là, on ne vient pas de dire que pour les motifs humanitaires genre,
ben,
ça n'arrête pas d'augmenter. Puis là, d'un autre côté, là, ils viennent de dire, ah ben...
Un petit programme spécial, mais regardez la suite. Le nouveau volet sera ouvert à maximum de 250 défendeurs des droits par année, y compris les membres de leur famille.
Et ça inclut les...
Leur famille, oui.
Plus. Ouais, plus, ouais. 250 plus les membres de leur famille.
Incluant les membres de la famille.
Ouais. Il fait bon émigrer au Canada.
Et regardez quand même, le Canada s'associe à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qu'on connaît bien, et des organisations internationales telles que Frontline Defenders et Protect Defenders, qui se spécialisent dans l'aide aux personnes menacées à raison de leur travail pour défendre les droits. Andrew Anderson, directeur de Frontline Defenders, a souligné que le Canada est l'un des premiers à incorporer une reconnaissance spéciale des réfugiés de défenseurs des droits de la personne, et qu'il va plus loin que tout autre gouvernement à ce jour. Fait que c'est un peu ça, la patente. C'est que c'est l'image. C'est l'image. On accepte des personnes comme ça qui sont des vrais militants dans leur pays. C'est vrai qu'ils sont menacés.
Non,
pendant qu'on a ici des gens déjà sur place qui disent qu'ils vont être persécutés s'ils retournent chez eux, puis on leur dit, ben non, écoute, on retourne chez vous en Inde, aux Philippines, il n'y a pas de problème.
En Colombie.
En Colombie, en Malaisie. Pas en Malaisie. Au Myanmar, c'est ça.
Voilà,
c'est... Mais les candidats devront être recommandés par l'Agence des Nations Unies et satisfaire aux exigences de sécurité et de santé, quand même. Et on espère que les premiers réfugiés dans le cadre de ce nouveau programme arriveront au Canada avant la fin de l'année. Donc, c'est M. Mendicino, là, donc, qui... une minute. Ben, écoutez, juste en terminant, je vous recommande d'aller voir, j'en parlerai peut-être une autre émission, le rapport qu'a sorti Amnesty et Human Rights Watch au mois de juin dernier sur la détention des migrants au Canada. On n'apprend pas grand-chose quand on suit les dossiers depuis longtemps, mais disons qu'il y a quelques chiffres qui m'ont fait sursauter. Je peux peut-être finir avec ça. Entre avril 2019 et mars 2020, le Canada a incarcéré 8825 personnes âgées de 15 à 83 ans, dont 1932 dans des prisons provinciales. Et durant la même période, 136 enfants, dont 73 âgés de moins de 6 ans, ont été emprisonnés avec leurs parents. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Puis, il y a quelques chiffres comme ça qui sont sur les communautés plus racisées, qui sont plus emprisonnées. Les gens qui ont des problèmes de santé mentale sont souvent plus dans des prisons provinciales que des centres pour immigrants. Donc, plein d'affaires assez troublantes. Donc, le titre du rapport, Simon, si tu me permets, en terminant, il s'appelle « Je me sentais pas comme un être humain. La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale. » Donc, c'est Amnesty et Human Rights Watch qui ont sorti ça. C'est passé dans le beurre, ça aussi. Il n'y a pas de problème.
Deux groupes de gauchistes comme ça. Là.
Ben oui, écoute, on sait très bien que c'est des fake news. Là,
qui n'étaient pas à la manif.
Mais qui ne sont pas dans le Parti libéral du Canada.
Bon, écoute, c'est beaucoup d'informations.
Oui,
c'est un peu décourageant.
J'arrête.
Mais enfin, ce beau grand pays, coast to coast, blablabla. On va aller en musique avec Backswash. La pièce, c'est 666. C'est une Luxaxa. Je ne sais pas si je prononce bien Luxaxa, Luxaxa. C'est dans le palmarès anglo de Choc sur l'album paru en 2021. I lie here buried with my rings and my dresses. Backswatch, cette rappeuse gothique montréalaise qui a gagné le Polaris 2020 avec son album précédent. Donc, la pièce, c'est 666 in Luxaxa at choc.ca. I'm gonna go.
They came out from the darkness, stole my people for me. Now was the mission holy, exercise the weapons on me. They say your culture is so evil, he's the realest story. We have the answers that you're needing and you're teaching for me. Abandon your gods, hand it painted town. Where would a cross, every semblance is lost. Make the devil never respond. Head of the markets, develop a harness. Pray to the crisis, I swear to Jesus is better than all this. Segregate the people, leave them with no food to eat. Harry Mason super speech, just raise his fake on you and me. Turn the radio, hear an echo when the truth is speaks. Every year he's jubilee, he bends his face and moves his feet. He's fucking racist. I have every basis to sell that. Dip my pen with a pen of every ink on the gel tag. Every sing in the bins of the nail lady, a mailman. Keep my grief in the seams, cause it ain't all as it seems.
Backswash aux Apatrides Anonymes sur choc.ca, émission du 29 juillet 2021. Marie-Ève est devant moi, mais comme d'habitude, j'en profite, mes petits micros là, pour vous lancer de l'information.
La
balle au bon avec d'autres actualités internationales en Belgique, cette fois-ci. Excusez, c'est rare quand même qu'on parle de la Belgique. Dernière fois, je pense que c'était pour parler des déboulonnements de Léopold II ou quelque chose comme ça.
Ah non, je pense que Mathieu avait parlé des camps de rétention de migrants quand même. Pendant
oui, et de la grève de la faim aussi.
Excusez, j'écoute pas souvent l'émission, je pense. Bon, il y a quand même pas moins de 450 personnes sans papier qui avaient entamé une grève de la faim en Belgique. Les personnes étaient réunies dans trois lieux différents, dans deux bâtiments universitaires et dans une église dans la région de Bruxelles. Grève de la faim qui avait commencé fin mai, donc qui a duré une soixantaine de jours en tout, c'est quand même beaucoup. Les revendications, ben c'était évidemment la régularisation des personnes sans papier, dont la plupart ont bel et bien effectué des démarches officielles, mais les délais de traitement sont très québéco-canadiens en Belgique, c'est donc extrêmement long. Parfois, juste pour un accusé de réception, ça peut être en termes d'années. Bon, c'est quand même des cas exceptionnels, mais en général, c'est quelques mois. Pas pour une réponse à son
non,
à sa demande,
de
un accusé de réception. Donc, ce qui place tout le monde dans la clandestinité et la précarité. Donc, une des revendications, c'est au moins d'avoir des permis de séjour temporaires en attendant et des permis de travail pour pouvoir se nourrir et nourrir ses enfants si enfant il y a. Il y aurait 150 000 personnes sans papier actuellement en Belgique. Les associations sur place essaient de convaincre les sans-papiers, ceux qui sortent de la grève de la faim, de recommencer leur démarche suite à cette grève de la faim-là. Donc, pourquoi on y a mis un terme à la grève de la faim? Il y a Sami Mahdi, le secrétaire d'État à l'asile et à la migration, qui s'est adressé directement aux grévistes et qui a fait des promesses orales seulement. Il n'y a rien qui a été signé, mais que les délais de traitement seraient considérablement raccourcis. Donc, on se rattache à bien peu de choses. L'espoir et le moral sont pas au plus haut, disons. La plupart des grévistes sont résignés et très affaiblis aussi. Plusieurs ont été hospitalisés, mais la plupart vont quand même retenter leur chance parce que c'est pour l'instant pas mal la seule issue qui leur reste, à part la clandestinité à peu près permanente. Histoire à suivre. Donc, Marie-Ève, on reste en Europe. On s'en va pas mal plus vers l'Est. Entre la Pologne, la Russie, l'Ukraine, les pays baltiques,
Lituanie. Plus précisément, la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie.
Ah bon, OK, on t'écoute.
Où les tensions sont assez vives entre les deux pays. C'est que depuis plusieurs semaines, il y a des centaines de personnes en provenance de la Biélorussie qui ont passé la frontière ouest du pays pour rentrer en Lituanie. Depuis le début de l'année, c'est 1 700 personnes qui sont arrivés en Lituanie, dont 1100 depuis le début du mois de juillet seulement.
OK, c'est quand même beaucoup, là.
Oui, oui, mais on parle, en 2020, c'était 81 pour l'ensemble de l'année, puis en 2019, c'était 37. Fait que là, pour l'instant, le pays n'a pas renvoyé aucune de ces personnes-là, malgré le rejet de toutes les demandes d'asile. Selon la Croix-Rouge, un tiers de ces personnes sont des hommes, un autre tiers sont des femmes. Il y a aussi des enfants, quelques mineurs non accompagnés et des personnes avec des problèmes de santé. La Croix-Rouge s'inquiète d'ailleurs là quant à ses capacités d'accueil pour assurer l'hébergement de ces personnes qui demandent l'asile, dont la plupart proviennent d'Irak ou encore de pays africains.
On n'est pas dans des routes migratoires traditionnelles non plus, non. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas tant de services ou d'ONG qui soient sur place. Là.
Non, c'est ça. Puis déjà, pour vous parler un peu là, de comment est-ce que le gouvernement lituanien a réagi, déjà à la fin juin, la situation était telle que l'armée lituanienne avait mis en place un camp d'urgence de plusieurs tentes à Pabradė, qui est à une quarantaine de kilomètres de la capitale Vilnius. Donc, avait mis ces camps pour pouvoir mieux gérer l'afflux de demandeurs d'asile. Puis, début juillet, au lendemain de l'arrivée de plus de 150 personnes en 24 heures, la Lituanie s'est déclarée en état d'urgence. L'agence de garde-frontière qu'on aime beaucoup, Frontex, a même été dépêchée sur place. Une semaine plus tard, la Lituanie a annoncé qu'elle allait construire, vous allez voir la gradation, là. Une semaine plus tard, la Lituanie a annoncé qu'elle allait construire un mur de près de 550 kilomètres à sa frontière.
La solution à tous les problèmes, le mur.
Évidemment. Et comme première étape, des soldats lituaniens ont commencé à installer donc des fils barbelés le long de la frontière. Et là, dernier geste posé par le gouvernement lituanien pour dissuader les nombreux migrants qui tentent de franchir la frontière avec la Biélorussie, l'adoption, le 13 juillet dernier, d'un projet de loi autorisant la détention à grande échelle des demandeurs d'asile. Le projet de loi a été adopté encore une fois par une forte majorité, 84 députés sur 141, malgré les protestations de la Croix-Rouge et d'autres ONG pour qui le texte ne respecte ni les engagements internationaux de la Lituanie ni les droits des migrants. La nouvelle loi interdit toute remise en liberté des migrants pendant 6 mois après leur arrivée. Elle limite le droit d'appel des demandeurs d'asile déboutés et stipule que ceux-ci peuvent être expulsés pendant l'examen de leur appel. Et elle supprime la plupart des droits accordés aux personnes migrantes, tels que le droit à un traducteur, le droit d'obtenir des informations sur leur statut et la procédure d'asile. La première ministre lituanienne, je pense qu'il va rentrer dans mon top 10 des chefs d'État à Newquay.
On va essayer de retenir son nom.
Ingrida Simonite a affirmé que les migrants arrivés récemment n'étaient, et je cite, pas de vrais demandeurs d'asile, mais, et je cite, un outil utilisé contre la Lituanie par le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Elle a aussi accusé la Biélorussie d'offrir aux migrants des vols à destination de Minsk. Je cite, il y a des agences de voyage, des vols directs qui relient Minsk à Bagdad, par exemple, et il y a des agences à la fois en Biélorussie et en d'autres pays qui opèrent et attirent des touristes, entre guillemets, à Minsk. Pourquoi cette affaire-là entre la Biélorussie et pourquoi est-ce que Mme Simonite accuse comme ça la Biélorussie? C'est que les tensions entre Minsk et Vilnius sont assez intense, alors que les relations entre l'Union européenne et la Biélorussie sont elles-mêmes compliquées depuis le détournement au mois de mai d'un vol commercial de Ryanair ordonné par le président Loukachenko pour arrêter un dissident politique.
Ben, je pensais que c'était des opposants politiques qui étaient réfugiés en Biélorussie, parce qu'il y en a déjà plusieurs qui sont cachés là, qui se sont sauvés du régime du sinistre personnage de Loukachenko. Mais là, tu me parles de migrants qui viennent d'ailleurs, mais je pensais que c'était des Biélorusses au début de ton micro. Biélorusses qui allaient se réfugier en Lituanie, qui est en plus dans l'Union européenne, je pense, ou en tout cas dans l'espace...
C'est comme je disais au début de mon blog, c'est que la plupart proviennent soit d'Irak ou de pays africains.
Non, c'est ça, mais au début, je pensais que c'était carrément des opposants biélorusses parce que c'est un régime vraiment très dictatorial. On a vu ce qui s'est passé en 2020 en Biélorussie. Il y a des gens morts, il y a des gens en prison. Donc, ça aurait pu être ça, tu sais. Mais je comprends les dynamiques entre les deux pays.
Il y a encore pas mal de manifestations, d'ailleurs, à Minsk.
Oui, de moins que l'année passée, mais quand même, c'est sûr que le régime a réussi à réprimer tout le monde. Là. Ouais.
Voilà.
OK, ben écoute, c'est merveilleux.
Tout va bien.
Histoire à suivre, parce que ça semble être que le début d'une crise migratoire dans ce coin-là. Moi, j'en avais jamais entendu parler.
Ben non, mais moi non plus. Puis je veux dire, la Lituanie, je pense qu'on c'est un des pays dont on parle à peu près jamais d'ailleurs. Là.
Ben ces trois pays-là, Lituanie, Lettonie, Estonie, c'est relativement... c'est comme l'Europe de l'Est tranquille.
Oui,
général.
Non, c'est ça.
Mais la Lituanie vient de découvrir c'est quoi des migrants. Fait que là, on dirait qu'ils commencent à zéro. Ils commencent avec un beau camp fait par l'armée, puis après ça, ils sont rendus à prisonner tout le monde.
Oui, c'est ça. Puis ça s'est fait genre en à peine un mois, là, tu sais, cette gradation-là.
Puis
c'est...
retirer tous les droits, en fait.
Oui,
on refuse
ça.
De vous accueillir, mais on vous force à rester pendant six mois. C'est un peu paradoxal. Donc, on va écouter quelques notes de musique. On est toujours aux Apatrides et on vous revient avec l'agenda. Voilà, merci Marie-Ève encore une fois pour ce bloc Lituanie-Biélorussie. Donc, pour l'agenda militant culturel, ben, tout d'abord, plus militant, il y a une vigile pour la journée de la justice pour les détenus. C'est au parc Vinet, à côté du métro Lionel-Groulx, le mardi 10 août à 18h30. Ça vise à commémorer les personnes mortes en prison et pour exprimer aussi notre solidarité envers celles, les personnes qui sont présentement derrière les barreaux, que ce soit à Vancouver, Kingston ou Laval. Mais la journée vise pas seulement les centres de rétention pour migrants, mais l'ensemble du système carcéral. On veut aussi en profiter pour commémorer les enfants des pensionnats autochtones et les personnes noires assassinées par la police qu'on juge victimes d'un seul et même système en réalité. Il y aura des intervenants qui parleront de l'histoire même de la journée de la justice pour les détenus, de leurs expériences personnelles et des conditions dans les prisons et centres de détention. Il y aura aussi, pour les plus bricoleurs d'entre nous, la fabrication d'une bannière collective sur laquelle seront écrits les noms des gens qui sont morts à l'intérieur des prisons canadiennes. Donc, c'est au Parc Vinet, dans la Petite Bourgogne, mardi le 10 août, 18h30. L'été à Montréal, bon, il n'y a pas encore tous les festivals et tout, mais en tout cas, Cinéma sous les étoiles est en feu cette année, jusqu'au 28 août dans une dizaine de parcs à Montréal. On consulte la programmation sur cinemasouslesétoiles.org et il faut noter que c'est gratuit, mais qu'il faut réserver ses places en ligne. Je crois pas que ce soit sold out dans la majorité des cas. Juste penser, comme me dit Mathieu, c'est juste envoyer un petit courriel. En réalité, ça peut être fait la journée même. Parmi la super belle programmation, j'ai retenu 6 films à vous suggérer. Donc, à vos papiers et vos crayons, lundi 2 août 2021, 20h45, au Parc des Faubourgs, donc Ontario de Lormier. Errance sans retour, documentaire québécois de Olivier Higgins, Mélanie Carrier. C'est sur le camp de réfugiés le plus peuplé du monde, le camp de Kutupalong au Bangladesh, qui héberge principalement des Rohingyas. Le lendemain, mardi 3 août, pas très loin de là, à côté du métro Frontenac, au parc Médéric Martin, « Demain est si loin », documentaire français sur le refuge solidaire à Briançon, dans les Alpes françaises, où on essaie de porter assistance aux migrants qui passent de l'Italie vers la France à travers les montagnes. Ça devrait être bien intéressant. Là aussi, il y a beaucoup d'actualités juridiques de poursuites pour délit de solidarité. Puis ton héros de 2020, d'ailleurs, Marie-Ève, qui était...
oui, dont le nom m'échappe.
Monsieur Héroux, je crois.
Ou Cédric Héroux, voilà.
Cédric Héroux, c'est ça. OK, un autre film, mercredi 4 août, 20h45 aussi, Parc Saint-Gabriel à Pointe-Saint-Charles, j'imagine. Behind the Fence, documentaire palestinien qui nous amène au camp de réfugiés de Déchet. Je sais pas si je prononce correctement, en Cisjordanie, et où on va évoquer les souvenirs de la première intifada. Donc, ça a l'air d'être un peu un aller-retour avec flashback sur des événements historiques passés. Jeudi 5 août, au Parc Mawson, Iberville et Beaubien, Aza Kivi, documentaire de Madagascar, qui nous présente des pêcheurs malgaches qui se battent contre un gros projet minier australien qui menace l'écosystème local, écosystème naturel et socio-économique. Donc, on est pogné partout avec les mêmes minières extractivistes. Je ne sais pas si une compagnie canadienne ou australienne sont très forts là-dedans aussi. Cinquième film que je vous suggère, mardi le 10 août, Parc Médéric Martin, La Lucha Sigue. Au Honduras, l'endroit le plus dangereux au monde pour ceux et celles qui défendent la terre, on va à la rencontre des gens des villes de Lenca et de Garifuna. qui ne recule pas devant la violence des multinationales. Et dernier film, je vous présente ça en ordre chronologique, c'est le mercredi 11 août au Parc Laurier, Hong Kong Moments, documentaire allemand filmé à Hong Kong en 2019 et qui nous parle des bouleversements que vit cette ville de moins en moins libre à travers plusieurs témoignages de gens de différents âges et différentes professions. Donc Hong Kong Moments, c'est au Parc Laurier. Eh bien, on s'en va vers la fin de l'émission tranquillement. Quelques notes de musique, puis on vous présente cette conclusion des Apatrides. Donc, avant de vous dire au revoir, quelques mots sur le Swaziland. Pourquoi on parle du Swaziland? Ben, je pense que c'était moi qui l'avais évoqué un peu comme ça dans un bloc africain en disant « Ah, faudrait bien qu'on parle du Swaziland à Mané », puis pouf, dans les nouvelles,
voilà.
Le Swaziland ressort, même, je pense, aux grands journaux télévisés de 22h, on parlait du Swaziland, qu'on appelle maintenant le royaume d'Eswatini. C'est une monarchie absolue, l'une des six dernières de la planète et la seule en Afrique. C'est un minuscule pays d'un peu plus d'un million d'habitants, complètement enclavé dans l'Afrique du Sud, comme l'est son voisin, le non moins célèbre, Lesotho, dont il faudrait bien qu'on vous parle bientôt. Donc, je ne sais pas si ça va popper dans les nouvelles, vu que je viens de dire ça. Bref, on n'entend jamais parler de l'Eswatini / Swaziland, sauf depuis quelques semaines, des mouvements pro-démocratie, des jeunes surtout, veulent en finir avec ce monarque absolu qui gouverne en tyran depuis 35 ans. J'entendais dire que c'était comme le 63e petit-fils du roi, quelque chose machin. En tout cas, c'est indécrottable monarchie. Pour l'instant, c'est manifestation après manifestation, mais la répression a été très dure, des centaines de blessés, une vingtaine de morts. Mais ça semble pas décourager cette jeunesse bien motivée qui aurait peut-être réussi à faire fuir le roi, Mswati III. Mais l'information n'est pas confirmée. On ne sait pas s'il est encore au pays. Peut-être qu'il est dans une jolie villa dans l'arrière-pays canois. Qui sait? Voulez-vous me nommer un petit pays un peu obscur? Juste voir, on vérifiera dans les semaines qui suivent s'il y a quelque chose qui se passe.
Liechtenstein.
Liechtenstein pour Mathieu. Marie-Ève, je te prends de cours. Oui. T'as une genre de face-palm.
Je vais faire une crise d'anxiété.
On vous laisse nos coordonnées, la page Facebook des Apatrides Anonymes que vous faites consulter. Marie-Ève, ne fais pas d'anxiété, s'il te plaît.
Non.
Notre adresse courriel, apatridesanonymes@resist.ca. Notre site web, apatridesanonymes.info. Évidemment, on a une page avec tous nos podcasts en rattrapage dans choc.ca. Merci beaucoup, Marie-Ève. Merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi, Simon, pour l'animation et tout le contenu.
Ça fait plaisir. On se dit à dans deux semaines. Rendez-vous le 12 août 2021. On va aller en musique. Le groupe Metz, la pièce A Boat to Drown In, paru en 2020. L'album, c'est Atlas Vending. Metz, excellent groupe punk de Toronto, qui ont annoncé un spectacle en décembre à Montréal avec le band Preoccupations au théâtre Fairmount. Donc voilà, on se quitte avec Metz. C'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca.
Bonne soirée tout le monde et à dans deux semaines.
Bonne soirée.
Bye.